Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire de 1999. L'enquête sur le meurtre dans la région de Grenoble d'un gars qui s'appelait Joseph Troupien. Vous verrez qu'il y a tout dans cette histoire pas banale. La mafia, la Cosa Nostra en arrière-plan, et puis une histoire d'argent, comme souvent, et des filles qui font le tapin. Je la débrieferai tout à l'heure avec maître Sandrine Monchaud, avocate au barreau de Grenoble, qui était partie civile dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouin. Réalisation, Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire commence un jour de rentrée des classes, le 6 septembre 1999, à Sardieu, un village de l'Isère de 1000 habitants. Il est 8h du matin, et dans les maisons, les gamins en sont à étaler du Nutella sur leurs tartines. Quand soudain... Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait des coups de feu, mais d'où ça vient? La réponse arrive à la gendarmerie.
C'est mon voisin, Monsieur Troupien. Il a été abattu devant chez lui. Venez vite!
Quand les gendarmes arrivent sur place, devant la porte du garage, il y a une Peugeot 405 garée et des pieds qui dépassent par la portière. Les pompiers arrivent à leur tour.
Bon, on arrive trop tard. Il est déjà mort, votre gars.
Le gars en question s'appelait donc Joseph Troupien. Il avait 53 ans. Il était père de 3 enfants. Joseph Troupien semble avoir été abattu, exécuté, alors qu'il sortait de chez lui et qu'il venait de monter dans sa voiture. Il a reçu plusieurs balles, d'abord au visage et surtout dans le cœur. Les gendarmes se penchent au pied du corps. Ils ramassent 5 douilles sur le sol et une autre à l'intérieur de la 405.
Bon, ça veut dire qu'il a été abattu de près, hein. Je dirais à bout portant, voire même à bout touchant, hein. Non, à mon avis, c'est à bout portant, regarde. Il n'y a pas de trace de poudre sur les plaies.
Et le plus terrible dans ce meurtre, c'est qu'un de ses fils était là. Il s'appelle Frédéric, il a 14 ans. Il a tout vu.
Mon père, il allait m'accompagner au collège. Il m'attendait dans la voiture et moi, j'allais sortir les poubelles et ouvrir le portail pour qu'il sorte.
Et t'as pu voir qui a tiré sur ton père?
Oui. J'ai vu un homme qui partait en courant.
Et cet homme, Frédéric, tu pourrais me le décrire?
Il portait un masque bizarre sur le visage. Il avait une casquette. Et puis, j'ai vu aussi qu'il avait les cheveux attachés en queue de cheval. Il était brun.
Et les vêtements, Frédéric? Quelle sorte de vêtements ils portaient?
Ben, je dirais que c'était des vêtements sombres.
Et après, Frédéric est allé se réfugier chez les voisins. Et le voisin est venu sur place.
Ben, je l'ai trouvé étalé sur le siège de sa voiture, il y avait du sang partout. Et alors, par terre, il y avait une casquette. Et donc, je l'ai ramassé et je l'ai mis sur le coffre, là, regardez. Vous inquiétez pas, j'ai pris toutes les précautions.
Une casquette? Avec un peu de chance, on va y trouver de l'ADN, même si on est en 1999 et qu'en matière criminelle, l'ADN n'en est qu'à ses débuts. Les gendarmes font le tour du jardin.
Tiens, regarde! C'est par là qu'il a dû passer.
Un trou dans le grillage. Un gros trou par lequel le tueur a pu arriver et peut-être même repartir. Bon, ben maintenant, il faut prévenir le reste de la famille. C'est-à-dire l'aîné qui a 20 ans, qui vit encore chez papa, mais qui n'était pas là. Et puis la seconde qui a 17 ans, qui étudie à Grenoble et qui a pris son indépendance. Et puis la mère, la mère des gamins, la femme de Joseph Troupia. Ils sont séparés depuis un an et en instance de divorce. Quand elle arrive sur place, les gendarmes assistent à une drôle de scène. Parce qu'entre-temps, son fils aîné est arrivé et il lui tombe dessus.
T'es là, toi, hein? Papa est mort! Qu'est-ce que tu lui as fait?
Qu'est-ce que tu lui as fait? Ça veut dire qu'il pense que sa mère est mêlée au meurtre de son père? Eh ben oui, et pas que lui. Son petit frère et sa sœur pensent la même chose. Les gendarmes se disent, elle va être vite pliée cette affaire. Eh bien, ils se trompent. Alors, qu'est-ce qui opposait cet homme et cette femme ? Qui était donc sur le point de divorcer. Et quand je dis sur le point, le divorce devait être prononcé dans 2 jours. Et là encore, c'est le fils aîné qui renseigne les gendarmes.
Il était conflictuel, le divorce de vos parents ?
Ah ben oui, ça pourrait être conflictuel, il était conflictuel.
Ils s'engueulaient sur le partage. La maison, les appartements qu'ils ont, tout ça à Grenoble et ailleurs, quoi.
Et vous pensez que c'est elle qui l'aurait fait éliminer ?
Ah ben ouais. Parce que maintenant, elle hérite de tout, quoi. Elle n'a plus à partager avec lui, quoi.
Catherine Troupien est immédiatement placée en garde à vue.
Bon, madame, on va aller droit au but. Vos enfants, vos propres enfants, vous accusent d'être à l'origine de la mort de votre mari.
Pourquoi, madame ? Vous en avez une idée ?
Mais parce que c'est lui qui les a remontés contre moi, depuis le début, pardi. Enfin, dans notre divorce, il a tout fait pour m'accabler auprès de mes enfants. Tout.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre mari, madame ?
Que c'était un homme brutal, quoi. Très brutal. Un Sicilien, quoi.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, madame ? Un Sicilien ?
On vient tous les deux du même village de Sicile, Somatino. Et lui, je dois vous dire que... il avait des liens avec la mafia. Avec Cosa Nostra.
Vous voulez dire des liens qui perduraient ?
Oui. Mon mari, à l'époque, il se fait appeler Monsieur Joe. Et il avait toujours des liens avec le grand banditisme. Et si vous voulez savoir d'où il tenait son argent, la maison, les appartements et tout ça... c'est de la prostitution. Voilà. Il était proxo, Joseph. À Paris, à Grenoble, en Italie. Je vous parle d'avant, hein. Là, il s'était rangé, mais... Mais avant, c'était un sacré, hein, Joe.
3 aurait donc pu être abattu par la mafia. Il faut reconnaître que ça colle avec le mode d'exécution. Pam, 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 à bout portant. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de nous balader, la Catherine ? Dans la foulée, les gendarmes perquisitionnent son appartement. Ils ne trouvent pas grand-chose, sauf des agendas et des carnets d'adresses. Et ça, c'est très précieux. Parce que si elle est mêlée à cette histoire, ça n'est pas elle qui a tué. Son fils a assisté à la scène, il ne l'a pas reconnu. Il a vu un homme. Un homme à queue de cheval, certes, mais un homme. Si c'est elle, elle avait donc un bras armé. Et son nom est peut-être dans ses carnets d'adresses. Cela dit, en attendant, les gendarmes n'ont aucun biscuit contre elle. Sa garde à vue est levée assez rapidement. Et maintenant, revenons-en à cette piste mafieuse. Elle tient, je vous l'ai dit, par le mode opératoire. Pam, 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 à bout portant. Mais en revanche, elle ne tient pas du tout par le calibre utilisé. Enfin, les douilles retrouvées près du cadavre étaient du petit calibre. Et c'est connu, la mafia sicilienne utilise traditionnellement du gros calibre. Et puis, le tueur a perdu sa casquette, ça fait pas pro du tout. Cela dit, après vérification, la famille Troupia est connue de la police et de la justice. Et Joseph Troupia, alias Monsieur Joe, a bien sévi dans les années 80 et 90 dans la région de Grenoble. Il a été mêlé à des histoires de raquettes et de prostitution. Et les gendarmes s'aperçoivent qu'il y a 5 ans, il a été arrêté en compagnie d'un membre très recherché de Cosa Nostra, Calogero Pulci, accusé d'un assassinat et de deux tentatives. Lequel Calogero Pulci est, figurez-vous, le neveu de Catherine Troupien, la veuve. Et on dit que Pulci, quand il a été arrêté, avait un magot caché quelque part. Un magot de 500 000 francs, c'est-à-dire 76 000 euros sous la forme de bons porteurs. Et ce magot, qu'est-il devenu? Les gendarmes, une fois de plus, interrogent le fils aîné.
Mais cet argent, c'est ma mère qui l'a récupéré. Quand Pulci, qui était son neveu, est parti en prison.
Et il est devenu quoi, ce magot, depuis?
Ben, elle l'a donné à mon père.
Ça, c'est une sacrée piste. Et un sacré motif pour avoir exécuté Troupia, pam, 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 à bout portant. La vengeance. La vengeance de Calogero Pulci, qui s'est fait chipper son pognon. Sauf qu'il est en prison, en Italie. Et donc il ne peut pas être le tueur. Cela dit, le juge d'instruction demande au policier italien de l'interroger.
Je n'avais aucun compte à régler avec mon oncle Joseph. Aucun compte. Moi, Joseph, je l'aime beaucoup. Beaucoup.
Un homme avec une queue de cheval, monsieur Pulci. Ça vous dit quelque chose?
Oui. Oui, ça me dit quelque chose. Un truand de Grenoble.
Et il balance un nom. Et les gendarmes vérifient. Le type ne pouvait pas être à Sardieu le jour du meurtre. La piste mafieuse se referme. Au moins provisoirement. C'est à ce moment-là que les gendarmes reçoivent le résultat des analyses ADN sur la casquette retrouvée sur la scène de crime. Et là, il faut que je vous explique. On est donc en 1999. Je vous l'ai dit, en matière criminelle, l'ADN n'en est qu'à ses balbutiements. À cette époque, il faut au minimum un cheveu avec son bulbe pour dégager un ADN. Et on a trouvé un cheveu dans la casquette. Le laboratoire génétique de Nantes, qui est très en avance à l'époque, a pu en sortir un profil génétique.
C'est bon, hein? On a un ADN mitochondrial, évidemment.
Mitochondrial, ne fuyez pas. C'est pas si compliqué que ça. À la fin des années 90, on ne peut pas faire mieux qu'extraire un ADN mitochondrial. On ne sait pas encore dégager un ADN complet d'un cheveu, mais seulement un ADN dit mitochondrial. Ça permet de répondre à une seule question. Quelle est la lignée maternelle du propriétaire de ce cheveu?
Et d'après ce que j'ai pu voir dans le fichier, c'est un cheveu qui appartiendrait à la lignée des Pulci.
Donc, elle tient debout, cette piste d'une vengeance mafieuse. Sauf qu'il est difficile d'aller plus loin. Parce que des Pulci, il y en a un paquet. Hein. Du coup, et si on en revenait à Catherine Troupia, la veuve? Elle a quand même été désignée dès le début par ses enfants. Et elle avait un intérêt dans la mort de son mari qui est l'héritage. En vérité, les gendarmes n'ont jamais lâché la piste de la veuve. Et d'ailleurs, depuis le début, ils l'ont placée sur écoute. Et ils ont cherché, dans son entourage, un homme à queue de cheval. Ils n'en ont pas trouvé. Mais ils ont aussi exploité leur répertoire de Catherine Troupia. Et ils l'ont croisé avec le relevé de ses appels téléphoniques. Ça donne une liste de 250 noms. Ils les ont fait venir un par un pour les interroger. Ça prend du temps. Et quand c'est un homme, ils lui ont fait un prélèvement ADN. Et ils l'ont comparé avec l'ADN du cheveu dans la casquette. Et un jour, après un an et demi d'interrogatoire acharné, bingo!
Bon, on a un nom, les gars. Georges Concalves. Et d'après ce que je vois, il a la taille et la corpulence de notre tueur.
Ne nous emballons pas. Il n'est désigné que par un ADN mitochondrial. Donc ça peut être lui, mais aussi n'importe lequel de ses frères ou de ses cousins du côté maternel. Sauf que lui, ce Goncalves, d'abord il habite pas loin, dans la région de Grenoble, et avec son portable, il a appelé plusieurs fois la veuve Troupia.
Et donc, il est convoqué, bien sûr.
Moi, je le connaissais même pas, ce Troupien, là. Moi, j'ai rien à voir avec son meurtre.
Je vous entends, monsieur Goncalves.
Mais vous avez tout de même appelé sa femme, à plusieurs reprises. Ouais, d'accord, mais moi, à l'époque, moi, ce portable, je l'ai passé à mon cousin. C'est lui qui a dû l'appeler.
Et il s'appelle comment, votre cousin ?
Manuel. Manuel Goncalves, comme moi.
Si vous avez bien suivi mes explications de généticien amateur, vous avez bien compris que les cousins ont le même ADN mitochondrial. Alors après Georges, eh ben va pour Manuel.
Oh, mais c'est pas moi qui s'en servais à l'époque de ce portable.
D'accord, d'accord, monsieur. Alors, qui s'en servait ?
Ah ben c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Gervasoni. Je lui ai prêté le portable de mon cousin.
Ok. Donc ils vont tous se refiler la patate chaude. On n'est pas sortis de l'auberge, ou plutôt de la pizzeria. Mais les gendarmes ont autre chose à se mettre sous la dent que l'ADN de la casquette. Ils ont aussi les écoutes téléphoniques sur la ligne de la veuve. Et un appel les intéresse bien. Un appel passé lui aussi avec le téléphone de Georges Goncalves, qui s'avère être très prêteur.
Allô ? Allô, c'est qui à l'appareil ? C'est Catherine. Ah, Catherine, d'accord. C'est José, là.
José ? Mais c'est qui, ce José ? Les gendarmes ne tardent pas à trouver la réponse, car ils planquent devant chez les Goncalves et devant chez Cervasoni. Et régulièrement, ils voient aller et venir un type qui n'a pas de queue de cheval, mais qui a en permanence une casquette vissée sur la tête. Clic-clac Kodak, il photographie sa plaque d'immatriculation.
Bon, c'est bon, hein ? J'ai le nom de ce José. Et figurez-vous que c'est encore un cousin des Goncalves. José Goncalves.
Cousin ? Donc avec le même ADN mitochondrial. Capito ? José Goncalves, Manuel Goncalves et Jean-Baptiste Gervasoni sont interpellés et placés en garde à vue. Et en perquisitionnant chez José, les gendarmes trouvent des photos qui prouvent qu'il a eu les cheveux longs. Mais en garde à vue, il est coriace.
J'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Est-ce que vous êtes allé à Sardieu en septembre, monsieur Goncalves ? Ah ben non, non. Jamais.
En revanche, le jeune Gervasoni, qui n'a que 22 ans, est beaucoup plus tendre. C'est de toute évidence le maillon faible.
Je reconnais qu'en septembre, oui, j'ai amené José à Sardieu. Il avait rendez-vous avec une femme. Enfin, pour vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors moi, je l'ai attendu dans un petit bois à côté. Et puis quand il a eu fait son affaire, ben, il est venu me rejoindre.
José Goncalves ne peut plus nier.
Bon. Bon, d'accord, c'est vrai. Je suis allé à Sardieu. Et c'est moi qui ai tué Joe Troupien. Je le connaissais pas, hein. Mais j'ai vidé mon chargeur sur lui. Mais pourquoi, monsieur Goncalves, si vous ne le connaissiez pas ? Ça, je peux pas vous le dire.
Mais les gendarmes ont déjà leur petite idée. Ils pensent que le commanditaire pourrait être la veuve, Catherine Troupien. Car figurez-vous que dans les jours qui ont suivi le meurtre, elle a retiré 25 000 francs en liquide sur son compte. Le prix de l'exécution de son mari ?
Est-ce que c'est à vous, monsieur Goncalves, qu'elle a remis ses 25 000 francs ? Ah oui, c'est à moi. Et c'est aussi elle qui m'a donné l'arme.
Eh ben voilà, elle est pliée, cette affaire. La veuve Troupien est interpellée 3 ans jour pour jour après le meurtre de son mari. Et elle est placée en garde à vue.
Moi, j'ai rien fait de tout ce que vous me dites. Je comprends pas, hein. Mais enfin, madame, vous êtes désignée par José Goncalves, après avoir été désignée par vos enfants.
Bah, de toute façon, je me souviens plus de rien. J'ai fait un AVC, vous savez, il y a un an.
Et elle nie aussi devant le juge d'instruction. Ce qui n'empêche pas le juge de la mettre en examen pour complicité d'assassinat. Et José Goncalves pour assassinat. Et son copain Jean-Baptiste Gervazzoni, qui a conduit la voiture, pour complicité lui aussi. Dans les semaines qui suivent, le juge les fait venir tous les trois dans son bureau pour une confrontation. Et la veuve Troupia reste droit dans ses bottes.
Tu dis n'importe quoi, José. Je vous ai jamais rien demandé. T'es qu'un menteur. Mais c'est toi qui mens. Tu m'as demandé de le tuer pendant des semaines.
Et ça se tient, parce qu'il s'avère que José avait des soucis d'argent. Il raconte qu'il a croisé Catherine Troupia dans un supermarché, qu'au début, elle lui a proposé de faire de petits travaux dans sa maison, qu'ensuite elle lui a proposé de coucher, ce qu'il a fait, et il est tombé amoureux, le couillon. Et que là, elle lui a raconté que Troupia la battait, qu'il l'avait même prostituée. Bref, elle l'a gentiment conditionné pour qu'il accepte de tuer son mari. Alors à ce stade, bien sûr, tout ça n'est que supposition, parce que elle, pour l'instant, elle n'a rien avoué du tout. Alors, quel serait le mobile de Catherine Troupia? Si bien sûr c'est elle qui a commandité le meurtre de son mari, ce qu'elle nie toujours. En poursuivant leur enquête, le juge d'instruction et les gendarmes trouvent un certain nombre de réponses. D'abord, elle n'a pas totalement menti à José. Son mari, Joseph, alias Monsieur Joe, l'a vraiment prostituée. Et après, c'est elle qui est devenue mère Macrel. Avec Joe, à un moment, ils ont eu 12 filles au turbin. Ça leur rapportait dans les 90 000 francs par mois, 13 000 euros. Et c'est avec l'argent du tapin qu'ils ont acheté leurs biens immobiliers, c'est-à-dire 3 maisons et 5 appartements. Et puis ils se sont fait pincer par la mondaine, tous les deux. Et ça leur a coûté 3 mois de prison pour proxénétisme aggravé. Et puis en 97, Joseph a demandé le divorce. Et ça, elle n'en voulait pas. Elle ne voulait pas couper leur magot en deux. Un magot amassé, entre autres, à la sueur de son cul. Et puis, elle n'a pas non plus menti au juge sur un autre point. Elle a vraiment eu un AVC, qui pourrait expliquer ses pertes de mémoire, qui ne seraient donc pas feintes. Et là, elle est tombée dans la dépression, au point de se voir retirer ses enfants qui ont été confiés à leur père. Tout ça pourrait expliquer qu'elle ait commandité le meurtre de son mari. Sauf que pour l'instant, je le répète, elle nie toujours. Très vite après, le juge organise une reconstitution dans la maison de Sardieu. Et là, bonjour l'ambiance. Les trois gamins sont là, il ne lui adresse pas un regard. Depuis qu'elle est accusée, il l'appelle la génitrice. Pas maman, hein, la génitrice. Et elle, à l'inverse, elle cherche leur regard.
Mais alors, mes chéris, vous embrassez pas votre mère? Enfin, je suis quand même votre mère, non?
Et eux, ils lui répondent par des noms d'oiseaux. À part ça, elle ne coopère pas beaucoup à cette reconstitution. Elle est toujours dans le déni. Alors que José Goncalves, lui, est bavard comme une pie.
Bon, en fait, j'avais déjà essayé de le tuer une semaine avant. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai découpé le grillage. Mais je suis pas allé au bout parce que y avait les chiens de sa fille qui étaient là. En revanche, une semaine plus tard, ben, je savais que la fille avait déménagé à Grenoble et qu'elle était partie avec ses chiens, quoi. Et vous le saviez comment, monsieur Goncalves? Eh bien, par Catherine. Elle voulait que je le tue quoi qu'il arrive avant le divorce. Elle était pressée. Bon. Maintenant, monsieur Goncalves, vous allez nous montrer les gestes que vous avez faits quand vous l'avez tué. C'est parti, on vous regarde. Franchement, monsieur le juge, j'ai pas regardé, hein. J'ai pas pu regarder. J'ai vidé mon chargeur en tournant la tête.
Ça, on peut en douter. Parce que le légiste et les balisticiens sont formels, c'était un tir précis. Le procès du trio Troupia-Goncalves-Gervazzoni s'ouvre le 31 janvier 2005 devant la cour d'assises de Grenoble. Les enfants sont là et ils réclament à haute voix dès le début la peau de leur mère. Le plus jeune surtout, celui qui a assisté au meurtre. De son banc, il insulte celle qu'il appelle toujours et encore sa génitrice. Et quand on interroge Catherine Troupia,
« Je vous dis que je suis pour rien, moi. José Goncalves, il agit seul. Néanmoins, madame, on peut dire que vous aviez toutes les raisons de commanditer l'assassinat de votre mari. C'est-à-dire la vie qu'il vous a fait vivre. Oh, c'est vrai qu'il m'a fait vivre une vie, comment dire, qui n'était pas facile. Mais pas plus que ça non plus, hein. »
Et le reste, elle ne s'en souvient pas. Et elle reçoit à la barre le soutien inattendu de l'expert psychiatre.
Il est parfaitement possible que l'AVC dont elle a été victime lui ait fait perdre la mémoire. C'est parfaitement possible. Et diriez-vous, docteur, que cet AVC a pu l'empêcher de monter un tel coup, de commanditer un tel meurtre? Oui, oui, je dirais que oui.
Sacré soutien. Mais l'événement de ce procès est ailleurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais Catherine Troupia a 3 enfants de son mariage avec Joe, mais aussi 4 enfants d'un premier mariage. Et c'est la fille aînée de son premier mariage qui jette un pavé dans la mare.
Joseph, il avait mis ma mère sur le trottoir. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Quand j'avais 15 ans, il m'a violé, Joseph. Il m'a violé.
Autrement dit, la victime est un salaud. Et ça, c'est toujours un point de marqué pour les accusés. Quant à José Goncalves, eh bien, il tient sa ligne, qui est la même depuis le début. Il reconnaît les faits et il implique la veuve Troupia. Et le troisième alors, Jean-Baptiste Gervazzoni, qui est juste là parce qu'il a emmené Goncalves en voiture sur place. Eh bien lui, d'un bout à l'autre du procès, on a l'impression que le président l'a oublié. À la fin, l'avocat général réclame 20 ans pour Goncalves et 18 ans pour Catherine Troupia. Mais le verdict des jurés est assez nettement en dessous. José Goncalves est condamné à 15 ans, et la veuve Troupia a 12 ans. Quant à Gervazzoni, il est acquitté. Personne ne fait appel. Et la veuve Troupia sort après 7 années de détention. 6 mois plus tard, on la retrouve morte chez elle, au pied d'une échelle. Une vengeance? La vendetta qui continue? C'est possible. Mais l'enquête conclut un accident et elle est enterrée conformément à sa dernière volonté dans la robe blanche de son mariage avec Monsieur Joe. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec vous, Maître Sandrine Monchaud du barreau de Grenoble. Vous avez donc été dans cette affaire l'avocate de l'une des filles de Catherine et de Joseph Troupia, partie civile donc. Et oui. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, vous avez aussi été bien avant avocate de Frédéric, le plus jeune des fils, au moment où se jouait la garde des enfants et que lui réclamait d'être confié à son père. Donc au fond, c'est une famille que vous connaissez bien.
Alors, que je connais bien, effectivement, puisque... Alors, en fait, je ne suis pas intervenue avant l'assassinat, je suis intervenue tout de suite après, puisque s'est posé le problème de la résidence donc de Frédéric, qui était mineur, et le juge des enfants a été saisi à ce moment-là pour décider de où aller Frédéric, qui voulait aller chez son frère et refuser obstinément d'aller chez sa mère. Donc c'est dans ce cadre-là, où quelques semaines après l'assassinat, j'ai été saisie pour intervenir pour le plus jeune. Après, je suis intervenue pour la sœur. Et je les ai accompagnés jusqu'au procès.
Alors d'abord, peut-être un commentaire sur le verdict. José Goncalves prend 15 ans, Catherine Troupia prend 12 ans, et moi je me dis que c'est pas cher payé pour un assassinat.
C'est effectivement pas cher payé, ça a été une grande déception pour les enfants, mais on a vécu un procès compliqué, alors qui est effectivement relaté dans ce que vous avez dit, où on a eu une grande partie du procès, où on avait l'impression que la personne qui était accusée, c'était justement Monsieur Trupia, et non pas sa femme. Et ça, ça a été très dur à vivre pour les enfants qui n'ont pas du tout partagé la vision que l'on a donnée de leur père sur ce que vous avez repris, sur ce qu'ont pu dire les filles, la fille aînée de Madame Trupia. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour les enfants d'entendre des choses qui, pour eux, ne correspondent absolument pas à la réalité. Pour eux, leur père n'était absolument pas un salaud, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée. Et je pense qu'elle a bénéficié de cette image mauvaise qu'elle a réussi à donner du père, de la victime, et qu'on a parfois un peu oublié que la victime, c'était le père.
Mais est-ce qu'elle a bénéficié aussi peut-être de son AVC et du soutien qu'elle reçoit tout de même de ce psychiatre qui va très loin ?
Elle en a sans doute bénéficié, si ce n'est qu'elle a... Alors, elle a voulu donner l'image pendant tout le procès de quelqu'un de malade, de quelqu'un de fatigué. Il y a eu quand même des moments dans le procès où elle a repris du poil sur la bête. Elle a montré sa véritable image en étant dans l'agressivité, notamment par rapport à ses enfants. Et là, on se rendait compte que c'était pas non plus quelqu'un de si malade.
Les accusations de sa fille aînée qui dit « Joseph m'a violée » aussi, évidemment, ça joue en sa faveur. Parce que la fille aînée dont on parle, c'est celle de son premier mariage. Et oui, les enfants du premier mariage la soutiennent, à la différence des enfants de son deuxième mariage.
Alors, ils la soutiennent au moment du procès, ils ne la soutiennent pas du tout au moment où ils sont entendus dans les premiers temps de l'enquête.
Elle les a
retournés. Là, ils donnent plutôt une image favorable de M. Trupia, et c'est après, au moment du procès, où là, effectivement, un peu à la surprise générale, ils viennent soutenir leur mère, qui les avait pourtant abandonnés quand ils étaient jeunes. Il y avait des rapports qui étaient extrêmement conflictuels entre ces enfants et leur mère. Et c'est uniquement au moment du procès où il y a eu ce rapprochement pour, entre guillemets, sauver leur mère, sans doute.
La mort de Catherine Trupia, maître, 6 mois après sa sortie de prison, c'est un accident, selon vous, ou c'est la vengeance qui continue ?
Alors, je n'y étais pas, donc je ne peux pas vous témoigner de la réalité de ce qu'il a pu se passer ce jour-là. En tout cas, je l'ai appris bien plus tard, puisque pour moi, le procès était terminé à partir du moment où l'audience était passée. Il y avait eu un appel de Mme Siabarasi, Mme Trupia, qui avait fait appel et qui s'en est désistée assez rapidement. J'ai eu l'occasion de revoir les enfants dans le cadre d'une émission qui avait été faite sur cette même affaire. Et on en a parlé à ce moment-là, et pour les enfants, ils tombaient un peu des nues. Pour eux, c'était un accident, ils n'avaient jamais entendu quoi que ce soit sur le fait que ça puisse être remis en cause ou qu'il y ait un quelconque doute.
Je voudrais revenir sur cette histoire d'AVC, parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup compté dans le verdict. Est-ce que vous y croyez, est-ce que votre cliente d'ailleurs y croit, que cet AVC ait pu la diminuer au point qu'elle ne se souvient pas d'avoir commandité ce meurtre?
Absolument pas. Pour les enfants, absolument pas. C'est-à-dire que la réalité de l'AVC, elle n'est pas contestée. Il y a toutes les pièces médicales, bien entendu. Par contre, l'attitude que la mère a pu avoir après l'AVC montre que c'est resté une femme forte et ça n'a absolument pas, d'après les enfants, une quelconque influence sur le fait qu'elle ne se rappelle pas. Elle se rappelait parfaitement de ce qu'elle voulait se rappeler.
C'est-à-dire qu'au procès, elle n'est pas pantelante?
Au procès, elle a toute une partie où elle veut se faire passer pour une dame plus âgée que ce qu'elle n'est, et malade et diminuée. Elle est effectivement dans une posture très recroquevillée, très parlant tout doucement, etc. Mais par contre, à certains moments... Je me rappelle qu'au moment de ma plaidoirie, il a fallu que le président intervienne pour lui demander de se calmer parce qu'elle n'acceptait pas ce que je pouvais dire.
Ouais.
Et là, elle a montré
une
femme qui était bien plus forte, et voilà.
Alors, évidemment, ce qui est le plus saisissant dans cette histoire, c'est ce ressentiment des enfants communs avec Joseph Trupia contre elle. Comment est-ce que vous résumeriez les raisons de cette haine ?
L'image des enfants ont toujours été d'être beaucoup plus proches de leur père que de leur mère, y compris quand le couple vivait ensemble. Moi, de ce qu'ils m'ont raconté, ils avaient une proximité avec leur père qui était un père très aimant, à la différence de la mère qui n'avait pas cette affection pour eux, tout au moins il ne la ressentait pas. Et du coup, quand il y a eu la séparation du couple, à ce moment-là, c'est tout à fait logiquement que le père a obtenu la garde des enfants et a continué à les élever. La mère, elle, était dans une opposition farouche à la procédure de divorce. Mmh. Et du coup, il y a eu des menaces, il y a eu beaucoup de choses de la part de la mère envers le père, ce qui fait que les enfants ont effectivement complètement pris parti de leur père parce que, bah, de toute façon, déjà le passé faisait que c'était le parent le plus aimant et qu'ensuite l'attitude de la mère n'a fait que remettre le conflit de plus en plus. Et au moment où l'assassinat se passe, c'est postérieur à des menaces qui avaient été faites par la mère qui refusait ce divorce et qui avait menacé de mort le père si jamais il allait jusqu'au divorce. Et du coup, pour eux, ça a été évident au moment où l'assassinat est intervenu que leur mère était à l'origine de celui-ci.
Oui, ça a été lumineux. Et si j'ai bien compris, ils vont même jusqu'à revisiter l'histoire, c'est-à-dire qu'ils disent oui, elle était prostituée et proxénète, mais pas lui.
Est-ce qu'ils la revisitent ou est-ce qu'ils la disent?
Ben, il a quand même été condamné, le père.
Alors, les enfants n'ont jamais contesté qu'effectivement le père avait eu des problèmes avec la justice. Ce qu'ils ont toujours dit, c'est qu'en aucun cas, ils n'avaient mis Madame Siabarassi sur le trottoir.
Donc Madame Siabarassi, c'est peut-être l'occasion...
Madame Trupia.
Oui, c'est l'occasion d'expliquer que quand une femme comparait devant la justice, elle comparait toujours sur son nom de jeune fille. Hein,
voilà. Pour les enfants, ils préféraient l'usage du nom de jeune fille que l'usage du nom de leur père. Bon, c'est d'accord. Pour ça que pour moi, ça reste et ça, c'est Madame Siabarassi.
Et donc pour
Madame Trupia.
Donc pour eux, leur mère a été proxénète, mais pas leur père.
Leur père l'a été aussi, mais c'était d'un commun accord entre tous les deux. Ce qu'ils ont toujours contesté, c'est que Madame Trupia voulait se faire passer pour la victime de l'activité de proxénète du père.
Oui.
Et eux ont toujours dit non, il y a eu, si vous voulez, une infraction commise en commun par les deux Trupia.
C'est pas lui le méchant, quoi.
Pour les enfants, c'est absolument pas lui le méchant. Et je tiens à préciser aussi que par rapport à l'argent qui a pu être récupéré suite à ces activités communes, les époux étaient en séparation et Madame Trupia était propriétaire de plusieurs appartements. C'était pas lui qui était propriétaire de ça.
Donc en cas de divorce, il n'y avait pas forcément de problème de partage.
Si vous voulez, c'était pas forcément une question de partage, c'était sans doute plus une question d'héritage. C'est-à-dire que comme ils étaient en séparation, en cas de prononcé du divorce, elle n'avait aucun droit sur le patrimoine immobilier de monsieur.
Oui.
Mais par contre, si le divorce n'était pas prononcé et qu'elle devenait veuve, à ce moment-là, elle était héritière sur son mari.
Ouais. Donc il y avait quoi, une donation au dernier vivant, c'est ça?
Alors, je pense pas qu'il y avait une donation au dernier vivant, mais l'époux a une partie... Alors, il n'est pas héritier au même titre que les enfants, mais il a toujours une part. Donc, c'était ça dont elle avait peur
de perdre. Cette petite part.
Et puis, il y avait aussi, sans doute, le fait qu'elle était opposée à ce divorce. Et vous dites...
Pour des questions d'argent, vous voulez dire?
Oui, je pense que... Enfin, quand on entend qu'elle a voulu se faire enterrer dans sa robe de mariée, ça montre l'attachement qu'elle pouvait avoir à ce mariage.
C'est quoi, une question d'honneur? C'est-à-dire, c'est un côté sicilien, ça, pour le coup.
Peut-être. Après, la difficulté, c'est comme on avait face à nous quelqu'un qui ne reconnaissait pas les faits, elle ne pouvait pas rentrer dans des explications pour justifier ce qu'elle avait pu faire. Donc on est un peu resté sur notre faim, sur les raisons qui avaient pu la pousser. Mais peut-être que ces raisons-là ont pu jouer aussi.
Je vous remercie beaucoup, Maître Manchot, d'avoir éclairé cette histoire quelques années après, d'avoir retrouvé la mémoire de cette histoire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Hey, attendez, ne partez pas, j'ai encore quelque chose à vous dire. Vous aimez les histoires incroyables. Vous connaissez celle de l'avocat qui a reçu par la poste une oreille coupée? Vous pouvez l'écouter dans le podcast « Mon client et moi ». Des avocats reviennent sur les affaires criminelles qui les ont les plus marquées, qui ont changé leur vie. Alors écoutez les nouveaux épisodes, c'est simple, il suffit de taper « Mon client et moi » dans votre application de podcast favorite et de vous abonner. Je vous laisse découvrir.